sur The Beat The Culture sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous. Vous êtes diffusés en direct sur le 93.9 FM et en direct du FGO Barbara dans le 18e. Ceux qui sont là, rapprochez-vous, n'hésitez pas. Et bienvenue à tous. On va passer une soirée de fou, une édition spéciale, la Winter Edition de The Beat The Culture, avec un talk en première partie. En deuxième partie, il y aura un freestyle beatmaker co-animé par le collectif Super Sample Paris. Et en troisième partie, un showcase de Original Negus. Mais d'abord, on va commencer avec le talk. The culture. The culture. The culture. Et pour le talk The Culture, j'ai la joie et l'immense honneur d'accueillir trois intervenants de qualité. Je vous demande d'applaudir Myrna, Daniel et Nathalie. Bienvenue, bienvenue, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Je vous remercie beaucoup d'être présents pour ce talk. Vous avez les micros devant vous. Le talk du jour, c'est un sujet qui m'interpelle depuis que je suis arrivée personnellement en Ile-de-France. Je n'ai pas toujours été d'ici. Et on en parlera plus longuement, bien sûr, le fait, ce que ça veut dire d'être ici ou d'être d'ailleurs. Mais c'est un talk en fait qui est vraiment au cœur de l'identité afrodescendante pour moi. Je voulais parler des clichés et des identités qui s'accrochent à nous quand on est afrodescendant ou quand on est issu de la diaspora. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce talk « Bounty, banlieusard, blédard, naviguer les clichés identitaires en tant qu'afrodescendant ». Mais avant qu'on démarre, je vais vous présenter la petite équipe qui a accepté de venir aujourd'hui, qui a eu l'honneur de venir. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Justine.
Bonjour Daniel, ça va?
Très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va. Salut Nathalie.
Salut.
Salut Myrna.
Salut, ça va?
Oui, ça va, ça va. On prend une grande inspiration?
Allez, let's go.
Yes, let's go. Bon, alors la première question que j'ai à poser, en vrai, c'est pour tout le monde, donc vous pouvez respirer et vous pouvez participer, bien sûr. C'est pas très radiophonique, là, ce que je vais faire, parce que je vais vous demander de lever la main. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qu'on a déjà appelées Bounty? Moi, je vais lever la main aussi. Ah, ok. Il y a quelques personnes quand même. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qu'on a déjà appelées blédard ou blédarde? Moi aussi, pas plus tard qu'hier, mon mari m'a appelé blédarde. J'aimerais te signer. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qu'on a déjà appelés banlieusard ou banlieusarde? Ok, ok, ok. Alors, pour les personnes qui sont à la radio, il y a eu des mains levées. On a une assemblée. J'ai le plaisir d'avoir une assemblée devant moi qui est très diverse. Et vraiment, j'apprécie déjà, merci à vous d'être ici, vous pouvez vous applaudir. Je vous remercie d'être ici, tout comme je remercie les personnes ici. En fait, je voulais que ce talk, ça puisse être une conversation en réalité. Comme on en a souvent, Nathalie, Daniel et Myrna font partie d'un groupe d'amis très proche que j'ai, et on parle souvent de ces questions-là, d'identité parmi plein d'autres sujets. Et en réalité, c'est le fait de parler avec eux et d'échanger avec eux qui m'inspirait ce sujet. Donc, je voulais revenir un petit peu, je voulais que vous me disiez un petit peu chacun, où est-ce que, en quelques phrases, vous avez passé, on va dire, les 15 premières années de vos vies? Daniel?
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis d'origine camerounaise, je suis né au Cameroun et j'y ai grandi toute mon enfance, jusqu'à mes 14 ans. Je suis arrivé en France pour retrouver mes parents qui sont venus s'installer et vivre en France. Voilà.
Où ça en France?
Alors dans le Finistère, à Brest, voilà.
À Brest, ok. Je n'ai pas demandé s'il y a des Bretons dans l'Assemblée, ça va aller. Quoi qu'il y en a toujours d'habitude, mais je ne poserai pas la question. Nathalie?
Moi, je suis née au Cameroun, née et grandie au Cameroun pour le coup. Je suis arrivée en France à 23 ans pour mes études. Donc, les 15 premières années de ma vie au Cameroun.
D'accord, merci. Myrna?
Pour ma part, j'ai grandi entre le 78 et le 93, donc Yvelines et Seine-Saint-Denis.
Yveline et Seine-Saint-Denis, d'accord. Pareil, je ne demanderai pas s'il y a des personnes du 9-3 dans la salle, vous êtes toujours là. Donc, je ne poserai pas la question.
Je suis là, donc.
De toute façon, de toute façon, tu es là. Et je voulais savoir, ma première question, c'est quand vous avez grandi, dans ces 15 premières années-là, quelle était votre perception de la France, de manière générale, en fait, juste Daniel ou Nathalie?
Je me lance. Vas-y. Alors, au Cameroun, la France, c'est... je ne sais pas si c'est à cause du passé qu'on a en commun ou pour d'autres raisons, mais la France, c'est vraiment le pays d'Europe, le pays de l'étranger que tout le monde regarde. La France, les États-Unis d'ailleurs. Donc, c'est vraiment la destination quand quelqu'un s'expatrie. Mm-hmm. Et avec ça, à la Sorbonne, c'est deux institutions immuables dans l'imaginaire du jeune Camerounais.
La Sorbonne, mais pas Alsace, du coup, c'est vraiment la Sorbonne qui a cette réputation internationale.
Panthéon Sorbonne.
Panthéon Sorbonne, quoi. Faut arriver là-bas. Mais c'est vrai que j'ai vécu ça aussi pour ma part. C'est vrai que j'ai pas répondu, mais je suis née en France. J'ai passé les 15 premières années en partie à Nantes, mais surtout en majorité en Haute-Savoie, dans une toute petite ville qui s'appelle La Roche-sur-Foron. Et je suis vraiment arrivée sur Paris tardivement, il y a peut-être 5, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc on avait aussi cette perception-là de la Sorbonne comme étant le bâtiment institutionnel où il faut être... Ça représente l'excellence des études de Paris et de la France et le rayonnement dans le monde. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire, ouais. Et Myrna, du coup ?
Pour moi, on ne s'est pas trop posé la question parce que quand on vient, entre guillemets, des quartiers, on ne se dit pas qu'on est français. Donc on ne voit pas cette vision de qu'est-ce que c'est que la France, on est juste dans nos quartiers, on traîne avec des Turcs, des Congolais, des Sénégalais. Et franchement, c'est après que je me suis posé la question. Donc là, jusqu'à mes 15 ans, j'étais même pas française.
Voilà. T'étais quoi du coup? Est-ce que tu avais cette idée-là de je suis XY ou juste...
Non, je vis dans le 78, voilà. Ouais. C'était juste ça, je suis une banlieusarde dans ma banlieue. En plus, on était loin de tout parce que j'étais au Mureau. Donc on n'avait pas les bus comme vous, les métros, les... Eh, doucement. Mais voilà, je viens de loin et ouais, on ne se posait pas cette question-là.
C'est à combien de temps les Mureaux? J'ai entendu des sifflements là-bas.
C'est loin. De toute façon, j'ai toujours habité loin, mais je pense, je sais pas, ça s'est développé les transports. Donc je pense 40 minutes de Saint-Lazare maintenant. Ouais, mais avant, c'était pas ça. On avait des trains gris. Enfin, c'était pas... Non.
Pas du tout. Et Daniel, du coup?
Alors, en ce qui me concerne, la France a toujours un peu représenté dans mon imaginaire l'intelligence. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand je pensais à la France, j'avais toujours l'impression d'une terre où il y avait des personnes intelligentes qui savaient réfléchir. Enfin, j'avais cette image-là, donc, qui a un peu évolué depuis. Je dois le reconnaître. Mais c'est vrai que j'étais jeune, hein, je n'avais pas forcément une appréhension. Je ne posais pas vraiment la question, mais c'est vrai que quand je pensais à la France, il y avait un peu cette notion de « Ok, c'est un pays où les gens sont intelligents », en tout cas, me paraissait très intelligent.
Et Daniel, d'ailleurs, toi, tu as passé finalement, tu disais 14 ans au Cameroun.
C'était exact.
Avant de venir d'arriver à Brest. Tout à l'heure, j'ai dit Bretagne, mais en fait, rien à voir. Donc, mea culpa pour les Bretons et les Brestois, c'est ça qu'on dit ?
Brestois, exactement, Brestois. C'est la Bretagne, hein, effectivement,
c'est la Bretagne,
dit les Brestois.
Okay.
Ah
bah
oui, le Finistère, je te rassure, c'est la Bretagne.
Ah, c'est la Bretagne, ok, ok. Bon,
Finistère, c'est le département et la région, c'est la Bretagne.
D'accord. Voilà. Et quand tu es arrivé ensuite en Bretagne, à Brest, tu as passé combien de temps là-bas avant d'arriver sur Paris, enfin, Île-de-France?
Alors si je suis à Paris depuis 2019. Je suis parti de Brest en 2013-2014. Je suis très nul en calcul. Hein. Je suis arrivé en 2007, je crois, de mémoire. Donc j'ai passé à peu près 7 ans, ouais. 7-8 ans à Brest. Et alors moi, c'était une terre qui m'a tout de suite accueilli. J'ai donc retrouvé mes parents qui vivaient à Brest. Et je ne sais pas s'il y avait une question derrière.
En fait, je me rends compte que tu as passé tes années cruciales là-bas, en fait, l'année de l'adolescence. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on se pose en réalité pour la première fois les questions de qui je suis par rapport aux autres. C'est toujours
bien
en
sûr.
Comparaison aux personnes qui nous entourent. Et par rapport à la question sur ta perception de la France, en dehors de toi, le temps possible, Est-ce qu'elle a changé entre le moment où tu étais au Cameroun et le moment où tu es arrivé en Bretagne, on va dire?
Alors, elle a changé quand je suis arrivé en Bretagne. Alors, pas tout de suite, hein, bien évidemment. Parce que moi, quand je suis arrivé, je suis allé au Bahut, au lycée. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me familiarise avec un environnement qui était différent, que je ne connaissais pas par le passé. Et tout de suite, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue était assez positive, parce que je me suis retrouvé au Bahut directement, avec mes parents. Alors, à l'époque, à Brest, dans mon lycée, nous n'étions pas beaucoup de Noirs. Il y avait trois Noirs de mémoire.
Waouh, sur combien d'étudiants, tout cela?
Alors, je ne saurais pas te dire, j'ai plus les chiffres exacts.
Ouais, mais...
c'est vrai que moi,
Noirs seulement, ouais.
Alors, moi, quand je suis arrivé, ce n'était pas du tout des questions que je me posais. Moi, je n'avais pas forcément une réflexion autour de ce que j'étais, sur ma couleur de peau. En fait, je suis arrivé, on m'a demandé d'aller au lycée, je suis allé au lycée, j'ai eu des amis quasiment tout de suite. Une très bonne pote à moi, une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée, qui était noire aussi, on nous a présenté dès le premier jour, parce que quand je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai dit je venais du Cameroun, on m'a dit ah, il y a une autre Camerounaise dans le Bahut. Donc on s'est lié d'amitié comme ça, on ne s'est plus jamais quitté. Et après ça, voilà, j'ai évolué avec des amis, voilà, des relations qu'on peut se faire à cet âge-là, plus ou moins sincères. Et en fait, c'est plus quand je suis arrivé à la fac, quand je suis parti de Brest, que j'ai commencé à avoir ces questionnements-là autour de mon identité, de ma couleur de peau, de qui j'étais, et du reflet qu'on pouvait me renvoyer aussi. Et donc, je n'ai pas eu tout de suite ces questionnements-là, en tout cas, quand je suis arrivé.
Bah, c'est clair, j'ai un peu une expérience similaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des moments marquants dans ma vie où je me suis rendu compte que j'étais noire. Mais ça n'a pas été, en tout cas au début de ma vie, ça n'a pas été une préoccupation constante ou des questionnements d'identité constants. Mais du coup, j'en viens à ma question suivante. Quels ont été pour vous genre, les moments clés où vous vous êtes genre, rendu compte que ah ouais, je suis noire, soit dans le sens je suis autre, soit dans le sens je fais partie d'eux?
Alors, pour ma part, c'était quand je suis arrivée à Paris 1. Je venais d'une université anglophone au Cameroun, donc c'était, je ne sais pas comment ça se fait, mais on n'était pas nombreux. Vraiment, c'était en L1, de L1 à L3, on était maximum 200 par classe. Je suis passée du côté francophone du Cameroun, je suis allée à la fac, il y avait trop de monde, j'ai décroché, et c'est là que j'ai décidé d'aller en France. Et donc quand j'ai été admise à la Sorbonne, pour moi la Sorbonne c'était une université élitiste. C'était the place to be du droit. Donc je me souviens très bien de mon premier jour en amphi à 8h et je vois toute cette population. Je me dis mais c'est quoi ça? Et en fait, c'est ce jour-là, la première fois où je me suis dit où est-ce que je suis?
Ah.
Il n'y a personne qui est comme moi. J'ai pas vu beaucoup de personnes qui étaient comme moi. Et je remercierai. Pendant longtemps, ma copine que je me suis faite ce jour-là, une Marocaine, qui a été un peu mon guide dans les eaux de l'intégration à Paris 1. Mais c'est vraiment la première fois où je me suis dit, je suis une blédarde en fait, tombée quelque part, que je ne connais pas.
C'est toi-même du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, je suis une
blédarde. Il y a une chanson très populaire ivoirienne qui s'appelle Un Gaou à Paris. Je me suis sentie comme un gaou à Paris ce jour-là. Je me suis dit, c'est grave quand même.
Bah, j'ai un peu la même expérience que Nathalie, du coup, parce que moi aussi, j'ai fait l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Aussi, ok.
Aussi, et même chose, quand je venais, du coup, je passais du 78 au 93, donc on a tous les clichés qu'on veut du 93, on nous disait que pour réussir, il fallait faire une grande université, sinon c'était mort. Et j'ai été prise par hasard à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? Franchement, c'est là où j'ai compris que j'étais noire.
Ah ouais.
C'est-à-dire que quand je suis arrivée en amphi, c'était à Tolbiac, il y avait 800 personnes. On n'arrive pas à déceler combien il y a trop de monde pour se dire est-ce qu'on est noir, est-ce qu'on n'est pas noir. Je me pose pas la question. Et quand je suis arrivée en TD, j'étais la seule noire. On me demande d'où tu viens. Je réponds que je viens de la Seine-Saint-Denis.
Ouais.
Et on me dit non mais vraiment tu viens d'où? C'est là où je me suis posé une question, je me suis dit, mais attendez, les autres, on leur a pas demandé ça, et moi, on me demande ça, j'ai oublié que j'étais noire, en fait. Donc c'est là où on voulait que je donne mes origines, etc. Et à chaque fois qu'on prenait des exemples, j'oublierai jamais en méthodologie, on n'a pas le droit de faire des statistiques en France, et là, on avait un cours de statistiques, et là, la personne qui nous dit, enfin, notre prof, qui me dit que moi, j'aurais moins de chances de trouver du travail que les autres, parce que je suis une femme noire, et je viens de la Seine-Saint-Denis. Donc je vais devoir travailler 3 fois plus que tout le monde, quoi. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que il fallait que je travaille.
Donc avant ça, en fait, pour toi, la question, elle se posait pas.
Elle se posait pas. On était juste là, quoi.
Ouais, t'es de la Seine-Saint-Denis.
Exactement.
Et c'est tout, en fait. Tu fais
c'est
tes
ça.
Trucs.
Comme j'ai dit, on définit souvent par quartier où je viens de quelle ville, et c'est là où tu as une appartenance à une ville et pas encore à un pays. Et quand tu arrives et qu'on te dit que finalement t'es pas trop française, tu te dis ça y est.
Je trouve ça grave intéressant parce que effectivement, tu as grandi avec un sentiment d'appartenance culturelle, mais d'appartenance culturelle à un département, à une ville, à un quartier en fait. Et pas à une identité, ton identité afro-descendante en soi, finalement.
C'était un peu compliqué parce que comme on grandissait avec tout le monde, j'ai même pas pu moi. Nourrir ce côté afro-descendant, congolaise, je ne le faisais qu'à la maison, donc pas avec les autres parce qu'on se mélangeait trop. Et on n'avait pas ce côté français parce que je ne ressemblais pas aux Français qu'on voit à la télé. Et quand on me dit que tu étais française, pas toi. Toi, tu es autre chose seulement.
Mais d'ailleurs, ça me fait. Je vais poser la question aussi, Daniel, la même question. Mais Myrna, moi je me demande, parce que je n'ai pas du tout grandi en Île-de-France, mais est-ce qu'il y a une culture. Enfin, genre culture du 7-8, culture du 9-3, culture de...
Carrément,
du 9-4.
Oui. Ouais. T'avais 78, c'était capitale du crime. 93, c'était 93 empire. Et enfin non, c'est totalement différent, que ce soit la manière de parler, la manière de s'habiller. Non, c'est pas pareil.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui?
Je pense que oui, parce qu'il y a toujours des villes qui sont un petit peu, et des banlieues qui sont un petit peu plus éloignées de Paris. Je pense aux Mureaux, par exemple, je pense qu'ils seront jamais comme les mecs de Bagnolet, quoi.
La comparaison.
Non, mais plus ouverts sur Paris, ils sont un petit peu loin, un petit peu reculés. Donc, je pense qu'on fait son ancrage déjà là-bas. Et je pense qu'une fois qu'on grandit, une fois qu'on a passé, parce qu'on passe quoi, la maternelle, la primaire, le lycée, d'autres font des DUT. Et c'est une fois qu'on va à la fac ou qu'on va travailler, on se dit, on se mélange aux autres, quoi. Donc, avant ça, on est bien dans nos villes. Après, je sais pas ce que les gens en pensent, mais...
Voilà. Et Daniel, par rapport à toi, du coup, même question, est-ce qu'il y a eu des moments clés où tu t'es rendu compte que, je suis noire ou je suis perçue comme noire?
Encore une fois, c'est un peu arrivé tardivement. Moi, ce que je peux relever, c'est que les premières fois où on m'a fait ressentir que j'étais noire, c'était un peu plus aussi dans mon cercle familial, ou parfois me rappeler, attention, t'es noir, t'es pas comme les autres, t'as pas forcément les mêmes avantages que les autres, tu ne peux pas faire tout ce que tes camarades font, tu peux pas souhaiter, espérer tout ce que tes camarades espèrent. Et j'ai une petite anecdote, moi quand j'étais étudiant, je travaillais en parallèle de mes études, et j'avais notamment travaillé... je ne sais pas si on peut citer des entreprises, chez IKEA.
Oui, tu peux.
J'avais donc passé ma visite d'information et de prévention, la visite médicale avant de commencer. Et le médecin que j'avais, qui m'avait consulté, le médecin de travail, était noir. Moi, je commençais tout juste mes études de droit. Donc, elle m'a un peu questionné, elle m'a demandé ce que je faisais. Moi, j'étais très fier de lui dire que j'étais à la fac de droit, que j'avais cette ambition, un jour peut-être, d'être avocat juriste. Et ça m'avait marqué parce que la réflexion qu'elle m'avait fait m'avait dit, mais tu sais, t'es noir, c'est difficile quand même, c'est pas un milieu simple. Et en plus là, tu vois, tu travailles chez IKEA, c'est une bonne boîte, internationale. Peut-être que tu penses à persévérer là, à évoluer, peut-être avoir un poste au sein d'IKEA. Et donc, elle venait quelque part un peu casser les ambitions que j'avais, les envies que j'avais, pardon, en me rappelant, en me ramenant, pardon, à mon identité, ma condition, comme quoi, en fait, tu es noir en France, c'est pas facile, c'est pas évident, donc tu ne pourras pas évoluer, tu ne peux pas rêver comme tous les autres. Et ça, malheureusement, je l'ai eu à plusieurs reprises dans l'entourage, des oncles, des tantes qui te disent « Ah ouais, non, mais attends, tu vas nous arrêter tes histoires-là. » Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup lire, par exemple, la lecture. Et quand, voilà, plutôt que d'aller jouer aux jeux vidéo, je préférais un bouquin. Donc forcément, ça dénotait un peu, on me dit « Ah ouais, non, mais... arrête-moi ça, voilà, ça ne t'amènera nulle part. » Donc c'est vrai que c'est là où je me rendais compte, en fait, j'étais un peu très limité, conditionné, et qu'on m'empêchait parfois de viser loin, grand, parce que j'étais noir en France.
Et cette expérience-là du médecin, c'est l'expérience que tu as vécue à Paris, Île-de-France?
Alors ça, malheureusement, c'était à Nantes.
C'était à Nantes,
exactement.
D'accord.
Voilà, okay. Parce que je suis parti de Brest pour aller poursuivre mon master à Nantes. Mm. Et par rapport à ce que tu disais d'ailleurs, Myrna ou Nathalie tout à l'heure, je trouve que, en fait, on ressent. Moi, je considère que j'ai quand même été préservé pendant mon adolescence, parce que je considère que c'est une chance pour moi d'être arrivé en France, à Brest, une ville un peu plus petite, où j'ai pas eu ce sentiment où à chaque fois on me faisait comprendre que j'étais noir. Quand moi j'évoluais, j'avais des amis blancs, mon meilleur pote était un blanc, j'avais une meilleure pote qui était noire. Je me suis vraiment jamais questionné sur mon identité en tant que noir. Donc j'ai un peu grandi comme ça, et j'ai malheureusement constaté que lorsqu'on arrive dans des villes un peu plus grandes où forcément il y a beaucoup plus de noirs, beaucoup d'autres personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Et là, bizarrement, dans la rue, même lorsqu'on va dans un magasin, on sent un peu les regards qui sont un peu plus pesants. Et forcément, on se questionne et on se dit, est-ce que c'est parce que je suis noir? Et c'est à ce moment-là que ça a commencé dans les grandes villes. Je trouve que c'est beaucoup
dans les
plus...
grandes villes.
Exactement. Okay. Quand, de mon expérience, c'était ça. Et c'est vrai que ça vient questionner aussi sur le rapport qu'on peut avoir avec les grandes villes, savoir concrètement, est-ce que c'est parce qu'on est dans une grande ville et que potentiellement, il y a beaucoup plus de personnes noires que ça peut être... on peut peut-être ressentir ces questionnements-là parfois, de s'interroger sur sa propre identité. Donc je ne sais pas, mais enfin, moi ça me questionne parfois.
Mais c'est vrai que le stéréotype et l'idée, c'est que les grandes villes, il y a de la diversité, donc elles sont inclusives, et les petits patelins, c'est là où on va te pointer du doigt. Et parfois, de ce que tu dis, ton expérience, au final, c'était une expérience qui était plutôt inversée, en fait.
Exactement, c'était tout le contraire. Et alors, les choses ont un peu changé aujourd'hui, parce que quand je retourne à Brest, je ne sais pas si c'est avec l'âge, parce que j'ai plus conscience aussi de ces sujets-là, où je me dis, bon, peut-être que cette personne me regarde bizarrement. Quand je vais entrer dans un magasin, je vais ressentir un peu la méfiance. Je me dis, bon, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, et que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu préservé, parce que je ne me questionnais pas et je ne me posais pas ces questions-là, mais en tout cas, pour moi, ça a été très marquant, très frappant dans des grandes villes, et notamment à Paris, parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, quand je suis arrivé à Paris, nous étions, je ne sais pas si je peux raconter,
raconte nos vies, vas-y.
Nous étions dans une école privée de droit, et je pense que je n'ai jamais eu autant d'amis noirs qu'à ce moment-là dans ma vie, donc c'est vrai que c'était... en fait, tu es là, tu es confronté à ces problématiques-là, parce qu'effectivement, on partage avec l'expérience, tu te rends compte, j'ai vécu ça aussi, et c'est un peu plus parlant.
C'est vrai que c'est une expérience qu'on a partagée tous ensemble, à un moment donné, de se dire, d'arriver là. Effectivement, on a fait la même formation supérieure, en fait, le master de droit, d'arriver ensemble et de se rendre compte qu'on avait des atomes crochus, mais aussi, c'est la première fois qu'on avait autant d'amis noirs. Et à ce moment-là, on avait 25 ans, 26 ans, enfin ces âges-là quand même. Donc un bon quart de siècle passé sans trop d'amis noirs finalement. Tu parlais d'un sujet aussi que je trouve super intéressant, c'est celui des limitations qu'on peut trouver dans nos propres communautés par rapport à notre image, par rapport à notre identité. Notamment des personnes qui te disaient « Ah bah, tu lis, pourquoi tu t'embêtes à lire, etc. » Moi, je pense que c'est une question qui est un peu générationnelle. Toi, pour ta part, c'était des personnes qui étaient de la génération de tes parents qui disaient ça, ou de la même génération que toi?
Ah bah, génération de mes parents.
D'accord, ouais. Moi, c'était pareil aussi, quand mes parents sont... moi, étant née en France, quand mes parents sont arrivés en France... dans leurs années étudiantes. Ils ont trouvé une communauté aussi d'Africains, Congolais, Camerounais aussi, mais d'autres, beaucoup de Camerounais finalement. Et certains, surtout de la communauté congolaise, qui leur disaient bah, pourquoi est-ce que tu continues tes études, parce que mon père a fait des études de médecine et ma mère de droit, pourquoi tu continues, tu peux t'arrêter là, on ne va pas te donner ta place, ça ne sert à rien de faire plus d'efforts. Et aussi, non mais tu n'es pas né en France, donc tu ne peux pas acheter de maison, ce qui était une intox totale, mais qu'ils ont cru pendant des années et qui ont fait qu'ils ont en fait investi dans l'immobilier vraiment tard par rapport à ce qu'ils auraient voulu à la base, parce que simplement ils n'étaient pas suffisamment bien informés en fait. Donc j'en viens bien sûr à une question, c'est est-ce que quelles sont les expériences que vous avez vécues par rapport à votre communauté qui ont été soit limitantes, soit valorisantes aussi?
Moi, c'est plus valorisant. Je trouve ça triste que ça vienne de votre propre famille qui vous limite. Moi, je n'ai pas du tout grandi comme ça. C'était justement parce que mes parents sont venus en France. Tu seras la première diplômée de la famille. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. En plus, je suis la première diplômée de toute ma famille.
Ah ouais.
Notamment en France, en Europe, même aux États-Unis, parce que je suis l'aînée de
tout le monde.
Je suis l'aînée de tout le monde.
Ouais.
Et ça, c'était un truc qui m'avait frappée. Et en fait, ils ont fait des études, ils ont eu des carrières, etc., sans les diplômes que nous, on a. Donc, je sais pas, ils s'arrêtent en... Je ne dis pas que c'est pas bien, mais en licence ou autre, et le master, ils l'ont pas. Mmh. Donc, moi, on m'a toujours poussé en me disant, c'est parce que tu es noir, que tu vas travailler deux fois plus, que tu vas atteindre cet objectif. Sinon, ben, t'es fou. De toute façon, j'avais même pas le choix. Il n'y a même pas de sinon.
Tu représentes quoi ?
Ouais, j'avais pas le choix.
Ouais.
Donc, que ce soit ma famille, en plus, qui est congolaise, ben... En France, il y a une grosse partie aussi aux États-Unis, et eux, c'est le American Dream. C'est-à-dire que personne ne va les arrêter. On n'a pas la même histoire, donc c'est d'autant plus que dans ma famille, on m'a jamais dit « tu n'y arriveras à rien ».
Ouais.
J'ai la même expérience que Myrna. Dans mon contexte familial, il n'y a vraiment jamais eu de « tu ne peux pas ». Au contraire, mon père, il m'appelait déjà, je n'avais même pas le bac, il m'appelait déjà avocate internationale d'affaires.
Tous les Africains ont fait du droit, on est des avocats.
Avocate internationale d'affaires, et c'est vraiment, tu peux. Tu veux aller aux États-Unis, tu iras aux États-Unis. Quand j'ai voulu venir en France, ça a été postule, et vas-y quoi.
Mm.
Pareil, pas dans le même registre. Moi, je suis la première personne de ma famille à s'expatrier, donc je suis vraiment la première de nous tous à être arrivés en France, à être allés à la Sorbonne, à avoir été diplômés. Bon, le rêve d'avocate a changé en cours de chemin, mais vous voyez quoi. Donc je n'ai jamais eu cette limitation à l'intérieur de ma communauté, mais par contre, venant des autres, j'ai reçu. D'ailleurs, quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'étais en stage, mon tout premier stage en France, parce que j'avais des expériences au Cameroun, aucune en France, et je me disais, ok, je suis à Paris, personne ne va vouloir de moi à Paris si je n'ai jamais eu d'expérience en France. Donc je vais à Reims où vivait une amie, et là je trouve un stage dans un tout petit cabinet, chez un avocat qui s'est reconstruit, un ancien directeur juridique, et je termine la Sorbonne, et j'ai été admise à l'école où on s'est rencontrés.
Ouais.
Et là, je lui annonce tout fièrement, et je reçois un SMS dans la journée, qu'il devait envoyer à un de ses amis, je pense. Et en fait, son SMS dit « ma stagiaire noire », il a précisé « noire ». « Ma stagiaire noire vient d'être prise en master 2 droit des affaires dans une école à Paris, après avoir terminé son master à Paris 1 ». Et la suite du message, c'est « j'en ai marre que c'est négresse ». J'en ai marre que ces négresses réussissent mieux que mon fils. Maintenant qu'il va à la cato de Lille, il a intérêt à réussir. Et donc, j'ai reçu le SMS, je n'ai pas su comment réagir. Pour tout vous dire, c'est une amie qui avait rédigé la réponse. Mais ça, c'est une réaction que j'ai souvent eue.
Ah ouais.
De personnes à qui je demandais un stage, de personnes que tu ajoutes en connexion sur LinkedIn. C'est un retour que j'ai eu des autres, mais jamais, vraiment jamais à l'intérieur de ma communauté, j'ai été limitée.
En fait, je dois avouer que cette histoire, déjà, moi personnellement, c'est pas la première fois que je l'entends, mais même là, j'ai senti tout mon sang, genre, bouillir à nouveau, parce que je trouve que cette histoire est vraiment scandaleuse. Et c'est encore une expérience qu'on vit. C'était en quelle année que tu as vécu ça?
Alors, 2018, hein, ouais, 2018, 2019, c'est pas si vieux que ça.
Ouais, finalement.
C'est 18-19.
Alors, moi j'allais juste dire, en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est arrivé dans mon cercle familial, dans ma communauté, mais avec le recul, j'essaye aussi de comprendre ces comportements, ces réactions-là. Moi, mes parents sont des ouvriers, et c'est vrai qu'ils avaient aussi cette crainte, je pense, de se dire que, ben, en fait, il va se confronter aux difficultés de la vie, il ne va peut-être pas réussir, et peut-être qu'ils ne voulaient pas simplement que je me fasse des leurres et que voilà, la déception soit grande. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Et en revanche, ce qu'ils m'ont toujours appris, mes parents, c'est de dire que tout ce que tu vas vouloir, il va falloir que tu te démerdes pour l'avoir, parce que nous, on ne pourra pas t'aider. Et je pense que ça a aussi forgé ma personnalité où, en fait, à chaque fois, je voulais quelque chose, en fait, j'y allais, j'essayais d'ouvrir des portes, et si la porte ne s'ouvrait pas, en fait, j'essayais de passer par la fenêtre, tout simplement. Et donc, c'est vrai que l'expérience, elle est vraiment différente, parce que moi, dans mon parcours, je suis parti très tôt de chez mes parents, j'ai commencé à me débrouiller tout seul, assez jeune, et à chaque fois, j'ai eu l'impression à chaque fois d'avancer, difficilement certes, mais au moins, à un moment, il y a toujours des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit « oui, on a confiance en toi, tu peux y arriver », et c'est comme ça que en fait, j'ai avancé. Donc c'est vrai que j'ai pas eu aujourd'hui énormément... De réticence, je pense, liée à la couleur de ma peau, parce que je me dis, en fait, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, c'était difficile, mais j'ai quand même, je suis parvenu, parce qu'en fait, je ne baissais pas les bras, et que ça ne m'a jamais vraiment questionné de savoir, est-ce que c'était parce que j'étais noir. Je me dis, bon, en fait, si on te dit non là, c'est pas grave, tente ta chance d'ailleurs, et à un moment, ça va finir par marcher. À certains moments, ça a bien fonctionné, donc c'est vrai que c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai essayé d'interpréter ça, de me dire que ce n'était pas évident pour mes parents, pour ces personnes-là qui me limitaient aussi, me dire, voilà, ils ont eu leur expérience, on n'en a vraiment jamais discuté, et voilà, c'est comme ça.
Ce que je perçois là, c'est que de ton côté, tu as des parents qui, du coup, ont été ouvriers en France, c'est ça, et qui t'ont poussé à faire plus et qui t'ont dit que ce serait difficile parce que ça a été difficile pour eux. Eux, ils ont eu aussi cette phase-là d'intégration en fait, qui a été compliquée pour eux, et ils veulent le meilleur pour toi, mais ils veulent aussi te protéger et manager tes attentes, en fait. Je ne sais pas si ça
c'est du non, mais moi, c'est l'interprétation que j'ai aujourd'hui. Hein. Je leur en veux absolument pas. Je pense que quand on est parent, c'est jamais évident. On essaie d'élever ses enfants comme on peut. Et que eux, à cette époque, je pense que par rapport à leur expérience, en tout cas, ils pensaient bien faire. Je pense qu'ils n'étaient pas mal intentionnés, au contraire.
Et de ton côté, Nathalie, moi, ce que je perçois, c'est que vous aviez une perspective aussi de la France comme un pays d'éducation, d'intelligence, un pays d'élévation et tout ça. Et donc, c'est, ils croyaient en toi, et donc, oui, ma fille, vas-y, toi aussi, tu peux briller comme les gens brillent là-bas, va au plus loin, et sans limitation, en fait. Finalement, ces perspectives-là me paraissent vraiment logiques quand je réfléchis à vos backgrounds, quoi.
Oui, mais quand on y pense, j'arrive un peu avec une vision idéalisée de l'endroit où je vais. Donc, je suis moins préparée que Daniel, par exemple, pour affronter ce type de situation. Parce que après le maître de stage de Reims, c'était celui de Paris. C'était celui de Paris. Et j'ai vraiment été moins... comment dire ? Je pense que j'ai pris plus frontalement les difficultés, les rejets, les jugements, les acharnements. Je les ai moins... j'étais moins préparée psychologiquement que quelqu'un à qui on a dit « ce sera dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur ».
T'aurais moi, voulu c'est... qu'on te dise
j'aurais c'est vraiment, dur. Oui, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise ça, j'aurais vraiment voulu dire, je pense que c'est quand je l'ai vécu la première fois que j'ai su qu'on pouvait être traité différemment parce qu'on est noir. Donc avant d'être appelée négresse, moi je n'avais pas cette conception de la vie. Avant que mon maître de stage de Paris s'acharne sur moi avec des journées qui se terminaient à 23h, alors que j'étais payée à la gratification de base, je ne savais pas que c'était... It was not a thing, si je ne savais pas que c'était...
Ouais, en plus, à l'époque, je ne sais même pas si ça passait les 500 euros. Quand moi, je suis arrivée à Paris, que j'étais en stage, je crois que c'était 480.
C'était 412
euros. Donc, ouais. Mais en fait, toi, il y a des choses que tu aurais voulu savoir plus jeune que tu as affronté après ou pas forcément?
Alors, franchement, je pense qu'on a dû tout affronter d'un coup. En fait, moi, ça arrivait tellement en grandissant que j'ai... Ouais. pris le temps, donc c'est pas comme vous où c'était super jeune. Comme j'ai dit, moi les premiers claques que j'ai pris, c'est quand j'ai commencé à chercher un travail, quand j'ai commencé à postuler par exemple après le master, donc c'était bien après. Donc en soi, ça allait, j'ai pas vraiment le même retour que vous. Moi tout allait bien. On m'a dit tu travailles, faut faire des études. Oui. T'auras... C'est peut-être ça en fait, on ne m'a pas forcément préparé à du négatif et autres, on m'a juste dit fait, donc j'ai fait et j'ai suivi. Mmh. Et ensuite, bon, bah, soit ça passait, soit ça passait pas, quoi.
J'ai l'impression aussi, ça c'est mon expérience, que la vie, en grandissant en Île-de-France, on est confronté à tellement de choses très tôt que on intègre que les difficultés font partie de la vie. Plus facilement que moi, par exemple, à La Roche-sur-Foron, au final, petit patelin savoyard en montagne, 750 mètres, je crois que j'ai vécu quand même dans une bulle parce qu'il y avait des problématiques auxquelles je ne faisais pas face une fois que je suis arrivée en Île-de-France avec toute cette diversité, mais du coup, toutes ces questions aussi qu'on me rejetait dessus. Petite anecdote personnelle, mais effectivement, mon premier emploi post-diplôme de droit à Paris, c'était dans une boîte où le premier jour, on m'a demandé « Ah, mais t'habites où ? » On a vu sur ton CV que t'habitais à Montreuil, parce qu'à cette époque-là, j'habitais à Montreuil, et j'ai dit oui. Et on m'a dit « Ah ouais, et t'as toujours été de Montreuil ?» J'ai dit « Non, j'ai grandi en Haute-Savoie. » Et on m'a répondu « Ah bah ça va, t'es pas une noire des quartiers. »
Ah, ça, c'est une histoire.
Donc, de ma vie. Ça a été ma première expérience professionnelle, on va dire, à Paris. Et je me suis rendu compte que être noire à Paris et en Île-de-France, c'était vraiment différent. Enfin, c'était... l'image est différente, quoi. J'ai rassuré mes collègues, entre guillemets, parce que j'étais pas une noire des quartiers. Cette histoire m'énerve aussi à chaque fois.
Après, j'ai l'impression que ça nous va d'être une noire de quartier. Tu veux qu'on te dise quoi ?
En fait, c'est ça. C'est que dans tous les cas, vraiment, si j'avais grandi à Montreuil, mais genre, ça sera avec fierté. En plus, j'adore Montreuil. Franchement, si je pouvais retourner habiter à Montreuil, je le ferais. Donc, ça m'a attristée et énervée de voir que, à l'endroit où j'étais là, c'était un problème. Et comment est-ce que vous avez vécu d'ailleurs votre recherche d'emploi ? J'aimerais dire qu'on a cherché des emplois à la même période qui était quand même la période Covid aussi. Donc il y a cet élément-là à prendre en compte. C'était, je pense, pour quel que soit le background, c'était compliqué pour tout le monde, quoi.
Alors, contrairement à mes recherches de stage, pendant la recherche d'emploi, j'ai moins eu le sentiment que le fait de ne pas trouver était lié à ma couleur de peau ou à mon background. C'était vraiment le contexte. Le contexte, c'était le Covid. Tout le monde avait... je pense que tout le monde avait peur de mourir.
Je
pense qu'à ce moment-là, on dépasse les barrières de race. Je pense qu'on dépasse les barrières de race et on se concentre sur des choses plus grandes. Donc vraiment, pendant ma recherche d'emploi, je n'ai pas eu le poids de mon héritage culturel. Et...
Ouais. Je dirais à peu près la même chose pour moi. C'est vrai que c'était très compliqué, mais je pense que c'était lié au contexte du Covid. Après, j'ai enchaîné des CDD jusqu'à ce que je sois recruté en CDI par ma maître du stage, parce que j'avais fait ma formation en alternant, donc qui m'a recontacté pour me proposer un CDI.
Ok, fluide.
Moi, j'ai galéré. Moi, j'ai galéré. En plus, je ne sais pas si c'était les intitulés des diplômes, parce que j'avais deux masters 2. Franchement, j'ai tout fait. C'est-à-dire que je suis partie à la fac. J'ai fait un master dans une école privée. Je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais quand j'ai eu ma période à Londres et tout. Et je me suis dit, bah, c'est bon, je vais être la reine du pétrole. Je vais arriver. En plus, je faisais des ateliers. C'est ça le pire. Je faisais des ateliers CV, lettre de motivation pour toute l'école. Plus de la moitié ont trouvé un travail.
C'est-à-dire que c'est toi qui les animais, j'aimerais préciser.
Mais franchement, ouais. Non, mais vraiment, donc un CV, une lettre de motivation, un entretien, je sais faire. Quand je ne mettais pas ma photo, on m'appelait, mais comme jamais. Et comme ça faisait Osémé Myrna Bilanga, je ne sais pas s'il disait ça Bilanga, ou tout le monde m'appelait, je faisais les entretiens, à chaque fois que j'arrivais, on faisait ah. Même en visio, quand on me voyait, je voyais dans leur regard qu'il y avait un... Il y avait un truc qui n'allait pas. Ah mais vous venez d'où? Enfin, on est dans un entretien, t'as pas à me demander ça, c'est soit tu me prends pour mes capacités ou pas. Bref, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai mis photo, j'ai mis dans les langues, j'avais mis lingala, okay. Langue maternelle, comme ça on ne pose plus la question. Et je me suis dit à chaque fois qu'on allait m'appeler, bah, si on m'appelle, ça, ils savent que je suis noire, ils savent que j'ai pas de problème. Et ben franchement, ils ont pris du temps à m'appeler. C'était compliqué. Mais finalement, j'ai trouvé. Hein, mais j'ai dû... Je pense que j'ai dû rester presque un an et demi au chômage. Mm. Et après, c'est bon. Après, maintenant, ça marche comme sur des roulettes. Parce que voilà, mais...
Et du coup, CV photo, pas photo, perruque ou pas perruque, afro?
Eh, vous faites ce que vous voulez. Photo, perruque. Vaut mieux que vous vous présentiez comme ça et qu'on vous prenne parce que... ils savent un peu à peu près qui vous êtes. Mm. Et dites-vous que maintenant, les recruteurs, ils ont plus ou moins changé. Et des fois, le fait d'être noir ou même d'être... d'origine autre. Maghrébine, je vous assure, la discrimination positive, c'était quelque chose à la mode en 2010. Maintenant, ils se diront toujours. On a besoin d'un petit rebeu ou d'une petite renoie pour égayer le service. Et je travaille dans les ressources humaines, donc...
Donc, tu es bien placé pour voir la réalité des choses, quoi.
Mais ouais, donc maintenant, franchement, vous faites comme vous voulez. Faut pas se brimer ou quoi. Vous arrivez comme au McDo sur votre CV et on vous prendra au moins... Vous savez pourquoi on vous a pris, quoi.
Ouais.
Alors, pour moi, le conseil sur la photo ou pas photo m'était venu de mon premier maître de stage, le même qui m'a appelé grâce après. Et lui, avec son background de directeur juridique, il m'avait dit, de toute façon, quand on lit ton nom, on sait que tu ne viens pas de Normandie. Donc, au moins, mets une photo.
Il avait une fixation, lui.
au moins, mets une photo. Pour qu'on voit comment tu présentes, que tu présentes sérieuse, propre et tout ça. Sur la photo, sur la question perruque ou pas perruque, petite anecdote personnelle, dans le cadre de l'école, il y avait un professeur qui était fondateur d'un très grand cabinet français. Je pense qu'il est dans les Big Four d'ailleurs, enfin pas dans les Big Four, dans les top 10 des cabinets en France. Ouais. Et il m'avait dit après un cours, envoyez-moi votre CV. Ok, j'envoie mon CV à notre directrice relations école de l'époque. Et elle me dit, vraiment, je pense, Nathalie, que vous devriez mettre votre ancienne photo. Sachant que sur la photo actuelle de mon CV, j'avais porté mes cheveux naturels en chignon. Et que la photo dont elle parlait, j'avais un tissage tout lisse.
Ouais.
Et elle m'a dit, vraiment, c'est un cabinet haute couture française, etc. La photo d'avant passera mieux. Alors moi, moment personnel d'indignation et tout ce que vous voulez, j'ai dit, bon, si c'est ça, je ne vais pas envoyer mon CV. En plus, j'ai regardé le site du cabinet, il y avait zéro diversité.
Ouais.
Donc, je me suis dit, ok, je ne vais pas postuler. En fin de compte, je n'ai pas postulé, je n'ai pas changé mon CV. Est-ce qu'au vu du contexte dans lequel j'ai cherché un emploi après, j'aurais pris la même décision, ça c'est autre chose.
Okay. Mais tu penses que tu aurais fait autre chose?
Je pense que j'aurais changé de photo.
Ah ouais,
ouais. Parce que à chercher le travail, bon, il y avait le Covid, mais j'ai quand même cherché du boulot pendant au moins un an. Et je pense qu'avoir ce nom-là sur mon CV, ça aurait changé ma recherche.
Mais du coup, toi qui... du coup, Nathalie, pour l'anecdote, quand on était ensemble en master, c'était vraiment la reine des cheveux naturels. Elle venait à chaque fois avec des coiffures magnifiques. Enfin, c'était incroyable. Et donc, je pense que pour toi, c'était vraiment particulier parce que tu passais du temps dessus. Est-ce que tu aurais bien vécu le fait de passer 6 mois, un an plus, un endroit où tu dois, en fait... porter un tissage ou une perruque lisse?
En fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que le problème n'était pas vraiment mettre la photo sur mon CV ne m'obligeait pas à mettre une perruque pendant tout le stage. C'était juste passe la porte et quand tu seras à l'intérieur, porte tes cheveux.
Tu penses que tu n'aurais pas senti la pression ou que tu n'aurais pas cédé à la pression?
Je n'aurais pas cédé à la pression.
Cédé, ouais. Ouais.
Parce que ensuite j'ai travaillé dans un autre cabinet où j'ai complètement assumé mes cheveux, où j'ai complètement assumé le fait de ne pas vouloir passer le CRFPA. Et là, je suis entourée de gens qui sont avocats. Mmh. Et donc, tous les jours à la pause déjeuner, est-ce que tu vas passer l'examen du barreau? Est-ce que tu vas passer l'examen du barreau? Non. Mmh. Donc, je pense que j'avais cette capacité à affirmer mes cheveux après.
Ouais.
Mais il aurait fallu passer la porte. Mmh. Mais je ne saurais jamais parce que je n'ai même pas envoyé le CV avec les cheveux crépus ou la perruque. Je n'ai envoyé aucun des deux.
Et ce que je trouve intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que je me souviens que moi, j'avais eu aussi un rendez-vous sur la même période avec cette même responsable pédagogique de notre école qui m'avait dit « il faut mettre la photo sur le CV ». Parce que tant qu'à faire, il faut qu'ils voient votre visage. Comme ça, ça fait le tri. Vous n'avez pas envie d'être recruté par des personnes qui seront déçues que vous soyez noir. Donc, mettez votre photo. Et je pense que la différence dans nos expériences, c'était que toi, tu visais ce cabinet en particulier. Et donc, elle t'a dit, honnêtement, pour ce cabinet-là, il faut que tu mettes un tissage. Quand moi, je visais rien de particulier, j'avais une expérience en tête que je voulais avoir, mais je ne visais pas de cabinet en particulier. Donc, elle me disait, dans ce cas-là, allez vers des endroits qui vont vous accepter tel que vous vous présentez, avec vos tresses, votre afro. Mais ça m'attriste encore qu'on ait à faire face à ça. Et je me demande si ce sera la même chose pour les générations suivantes. Vous, c'est quoi votre perspective? Est-ce que vous pensez que nos enfants ou nos petits cousins, petites cousines, ils vont affronter les mêmes choses aussi?
Moi, je pense pas. Je me dis que le métissage, quand même, franchement, s'ils le subissent, c'est triste. Mmh. Ils vont pas le subir, je pense. Et en plus, la génération, là, surtout les 2000, ils savent tellement mettre des stops aux gens, dire non, je veux pas le subir, non, c'est pas comme ça, non, je vais partir. Nous, on l'a subi, on n'a pas pu dire non à nos chefs, ou même encore, on a peur. Mais la génération d'après, je pense qu'elle sera assez métissée pour que ça leur arrive pas, du moins j'espère, et pourront dire non rapidement, pas comme nous.
Je ne suis pas très alignée avec ce que tu dis, dans la mesure où ils savent dire stop, mais ils ne passeront pas la porte. Aujourd'hui encore, on voit que les étudiants de l'ENA sont fils d'énarques. Les étudiants de X à Polytech sont des fils de polytechniciens. La magistrature, c'est pareil. Donc, dans des endroits, dans certains endroits élitistes, les portes resteront et les codes resteront. Donc, est-ce que tu veux passer la porte et essayer de changer les choses de l'intérieur? Ou alors, est-ce que tu vas t'insurger sur le pas de la porte et retourner? Je pense que ce sera ça la question.
Mais ça a changé un peu maintenant. Alors, c'est bon, on a des bâtonniers, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des asiatiques partout.
Je ne sais pas, franchement.
Je suis assez d'accord avec Myrna pour le coup.
Est-ce que vous avez suivi la dernière élection Conseil de l'ordre?
Non, mais ok, donc spécifique.
Il y en a encore.
Mais je pense qu'il y en aura moins. Parce que franchement, on est partout maintenant. On ne peut pas dire dans une boîte où ça arrive. Ça arrive. Ça arrive que des fois, il n'y a pas beaucoup de diversité, etc.
Ou alors que la diversité, ce soit juste le quota. Ce soit juste une personne pour le quota.
Malheureusement, c'est
ou
déjà...
deux.
Oui, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc,
Alors, c'est vrai qu'il y a l'effet sociétal, l'environnement, qui fait qu'effectivement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. N'empêche, il y a quand même des évolutions. Et moi, je reste convaincu que, en fait, les générations qui vont arriver, elles ont ces aspirations-là. Donc, ce sera aussi à elles de faire le travail, d'être le monde qu'elles ont envie de voir, en fait, de faire en sorte que, en fait, demain, nous, on sera peut-être à des postes, on pourra peut-être recruter aussi, et de se dire que, en fait, on a vécu ces traumatismes-là, ça nous aussi d'ouvrir la voie, et elles, quand elles vont arriver, en fait, elles vont entrer dedans et vont s'affirmer, et ça va changer. Pas rapidement, mais ça changera, je suis convaincue.
C'est vrai que moi aussi, j'ai un côté un peu optimiste où je me dis, maintenant, on commence à être en position aussi de recruter, de créer des boîtes, de créer des entreprises, de créer des cabinets, et d'avoir cette conscience-là de se dire, je veux recruter aussi des personnes qui vont se sentir à l'aise où ils sont et que je vais sentir à l'aise dans l'environnement que j'ai créé. Et je pense que les choses peuvent changer, mais c'est vrai que c'est tout doucement, parce que déjà, pour créer son cabinet dans la scène parisienne, française, etc. C'est déjà un défi, mais c'est un défi que notre génération relève de plus en plus. Donc c'est un truc qui est... Ça me fait plaisir de voir ça et je suis pour le coup assez optimiste sur l'avancée, peut-être lente, mais l'avancée.
Et après, ils peuvent partir
avec
aussi.
Avec Retailleau, c'est beaucoup moins.
Ah ben
je suis beaucoup moins optimiste que vous.
Bon, on a un beaucoup gouvernement moins. Qui change toutes les deux semaines, donc bon.
Après, on a l'Union. Enfin, là, je vais rentrer dans un débat seul dans ma tête. Non, mais on peut aussi leur dire d'aller voir, entre guillemets, ailleurs, quoi. On n'est pas aussi obligé de se cantonner qu'à la France. Le monde, il est aussi grand. Oui. Donc si à un moment ça bloque ici, bon bah c'est pas grave, mon enfant va en Espagne, va à Londres. Là-bas, ils ne vont pas être vus comme des Noirs, ils vont être vus comme des Français. Il n'y a qu'à l'étranger en plus avec nos couleurs, où quand on leur dit on est français, ça leur suffit. Donc peut-être que d'évoluer dans des endroits comme ça, quitte à revenir, bon bah on trouvera toutes les solutions, mais soyons positifs dessus. Parce que...
Merci. Je peux juste rebondir, parce que avec Myrna, on n'est jamais d'accord, mais bon. Cette société, c'est la leur aussi. Enfin, moi, je ne suis pas trop dans l'idée qu'il faille nécessairement partir pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en fait, de se battre, de se dire que la société, c'est la nôtre, de faire sa place et de se battre pour l'avoir, cette place-là. Je sais que c'est difficile, mais si on ne se bat pas, en fait, elles ne l'auront jamais, cette place-là. Donc moi, je reste convaincu qu'il faut être optimiste, se dire que les choses... avancent, certes pas assez, mais elles avancent quand même, mais et de avancent, continuer de se battre pour qu'elles avancent et de rester se battre et faire en sorte qu'elles avancent.
En tout cas, merci à vous trois pour votre participation au talk, c'est passé super vite. J'ai une dernière question en un mot. Si vous-même, vous deviez vous attribuer une étiquette, ce serait laquelle? Un seul mot.
Et on va me prendre pour une folle, mais charismatique.
Ok, j'approuve.
Moi, je dirais forceuse.
Yes.
Pareil, la résilience.
Résilience, ok. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos interventions ici. Alors, on va bientôt passer à la partie The Beat, qui sera co-animée par le collectif Super Simple Paris. Mais avant, on fait une petite pause, donc prenez une conso au bar et on revient dans moins de 10 minutes.
À goût du turson, mon aura, pas peur comme la sirène caresse mon oreille, je recale tout dans la minute qui arrive. Pour nous, la nasse et la cuba, c'est Paris, la puce fait des loups, son secteur, c'est Paris. Comment dormir tranquillement si t'es pas riche? Comment revenir si t'es banni, je Miami Beach. Je sais pas si t'es Bali, je veux les cités d'or comme Esteban. Quand la cité d'or, on livre, on dépanne. Y'avait une livrette de pain sur mon livret départ. Attends, faut que je coiffe bien, l'état ils prennent des parts. On arrache la route, donc tu prends le départ. Je sais que je veux très rentre, même si je suis loin des ports. A 4, on est partout, chez toi on dépanne. Je suis loin des ports, Opi ou Cali pour fermer des gorges. Pour tenir la cime, fallait former des gosses. Quand je récupère la Cali, je fais zéro négoce. Ramène des meufs chaudes, y'a des glaçons dans mes gazures. Faut que les affaires n'étourent comme Pégase. Tu vois sur une terrasse, j'investis en Côte d'Azur. Problème on tasse, dans la cave on fait le recomptage. Toujours les mauvaises fréquentations. Rappeler la street, j'ai pas d'incantation. C'est con, jeter l'encre, ils savent qu'on tâche. Récupère le pilon, gère le pilotage. Au pire si t'as chaud, t'inquiète, je le tâche. Je veux monter dans le bateau, on a déjà pris le large. Pendant qu'on a pris de l'argent, t'as pris de l'âge. J'ai pas de nage sur métal, faut qu'on me canne. J'aime voler. J'aime voler le bac, adore sa mégane. J'ai pas de nage sur métal, faut qu'on me canne. J'aime voler mes le bac, adore sa mégane. J'harcèle pas car j'ai pas le time. Mes potos impossible que je m'endors sur métal. J'ai pas de nage sur métal, faut pas qu'on me localise. J'aime voler mes le bac, adore sa médaille. Des blessures de guerre, quelques blessures de cœur. Pour soigner les pieds Lakers. Y'a des proches qui deviennent des haters. C'est jamais tout rose donc sors pas à ce tort. S'il faut bien s'entourer, une équipe qui t'assiste gros. Quand c'est chaud c'est qui t'assume. 400 chevaux, c'est pas l'équitation. On bouge seulement pour une paye équitable. Relou de faire bosser une traînée qui tape. J'aime les voir rentrer dans le guet-apens. Je t'envoie le son qui frappe les tympans. Même en temps de guerre je te fais ta planche. Quand t'as du pilon y'a tout le monde qui t'approche. Toujours du bon dans ce que le bitume m'apprend. Bâtard même si tu me chéprends t'auras pas la branche. Ils sont pas de connex vers là-bas ils sont pas branchés sur métal. Faut qu'on me canne, j'aime voler mes le bac, adore sa mégane. J'ai pas de nage sur métal, faut qu'on me canne. J'aime voler mes le bac, adore sa mégane. J'harcèle pas car j'ai pas le time. Mes potos impossible que je m'endors sur métal. J'ai pas de nage sur métal, faut pas qu'on me localise. J'aime voler mes le bac, adore sa médaille.
change d'ennemis mais jamais de camp. Tu sais les fans dit quand l'envie me prend. Est-ce que tu me vois venir, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu me vois venir, clap? Y'a des pères et qui agissent dans mon ventre. Je peux pas te le donner, je dois te le vendre. Sous-moi la bite, nous on est tout devant. On voit pas la porte, sinon je te devance. Clan 40 que je garde avec moi. Je les connais, hop, ils sont pas avec moi. Elle part sur toi, elle baise avec moi. Je crains rien, non j'ai Dieu avec moi. Ils ont R, ils peuvent pas investir. Ils font R, ils sont pas invincibles. Numéro 1, c'est pour ça que j'insiste. Vers ce cash, c'est à ça que j'insiste. Et je préfère quand ils sont hors de ma vue. La réussite est au bout de la rue. La parole, je le sens et je le vois. Je crame la scène, je n'ai même plus de voix. Ce qu'on m'a dit, je l'ai pas oublié. Sans monnaie, moi je peux pas oublier. Contre l'assassin, hein, j'ai pas le temps de m'occuper de la chaîne. C'est bizarre, on a percé je crois. Finir millionnaire, biche, est-ce que tu me crois? La peine ici qui me détruit le foie. Tranquillement je pose mon cul sur le toit. La chemise Prada n'est faite que de soi. Parce qu'ils me rendront jamais tous ceux qui me doivent. 18 carats, c'est la bague sur mon doigt. NSI, pour négro, c'est ce que je bois. Change d'ennemis, mais jamais de camp. Je suis chez FN, dit quand l'envie me prend. Est-ce que tu me vois venir, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu me vois venir, clap? Y'a des pères de cette qui agissent dans mon ventre. Je peux pas te le donner, je dois te le vendre. Sous-moi la bite, nous on est tout devant. On voit pas la part, sinon je te devance.
Tout est réel, putain, arrête de rêver. Je vois le ciel se coucher, se lever. Je suis comme Kiki, sur le couloir ça va vite. Je suis 9 de I, à la mort, à la vie. Là ce que tu fais, on l'a vu et revu. Je suis mort sous Jack, mais au fond je revis. Bellec à toi, quand le démon se réveille. Je les vois trembler, mon talent je révèle. Plein de rappeurs à chier. Frappe, je vends ton rappeur, achète. Ce que t'as toi, je vais pas te l'acheter, je vais te l'arracher. Si tu plaques, t'as sur ta chaîne. T'as pas de sous, donne l'allée, je vais la promener ta chienne. Sache. Et t'as le froid si tu fais le show. Là où chauffer, je découpe le shit, je suis sans, j'ai du queue gras sur le réchaud. Dans ma tête vole des ans déchus. Tu viens de l'acheter, je l'avais déjà. Qu'est-ce que tu veux dire, développe? Tu veux le showcase, prépare l'enveloppe. Je prends le coup franc, lui quand je l'enveloppe. Celui qui vivra verra.
Change d'ennemis mais jamais de camp. Tu sais FN dit quand l'envie me prend. Est-ce que tu me vois venir, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu me vois venir, clap? Y'a des pères de celles qui agissent dans mon ventre. Je peux pas te le donner, je dois te le vendre. Sous-moi la bite, nous on est tout devant. On voit pas la part, sinon je te devance.
J'avais pas de kawé sous la pluie, j'étais avec les chauves-souris dans la nuit. Et je sais qu'on dirait qu'on est possédé, ma voisine croit que je fais juste du fruit. J'ai mal au cou, y'a du sang sur mes pierres, mais je l'ai voulu depuis que je suis petit. Si tu prends le logo, la chaîne avec, je suis pas sûr, mais y'a moyen que ça te fasse un prix. On m'a dit, dans la vie, y'a ceux qui ont un pistolet chargé, y'a ceux qui creusent. J'fais un mouche, récupère 400 000 et elle tombe amoureuse. Et je peux pas faire semblant, je les déteste, j'peux pas fuck avec eux. Et je sais que tu t'es perdu, mais ensemble on est deux. J'ai la haine, j'ai pas envie qu'on m'aime. J'ai une nouvelle chaîne, j'veux un M. Malgré tous ces couteaux dans mon dos, j'prends un sac tous les jours, c'est la même. J'ai la haine, j'ai pas envie qu'on m'aime. J'ai une nouvelle chaîne, j'veux un M. Malgré tous ces couteaux dans mon dos, j'prends un sac tous les jours, c'est la même. C'est la même bébé, je parle dans ma bulle comme dans une BD. Tous les baisers c'était ça le thème. T'es parti, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai pensé aux vieux négros qui veulent te ken. Défoncer, j'emploie mon visage comme ce week-end. J'fais des billets, maman, crois que j'suis connu. Plus de billets, maman, crois que j'suis encore plus connu. Ils peuvent streamer autant qu'ils voudront, on sera jamais les mêmes. Et mon film préféré c'est ma vie, j'peux pas regarder la tienne. Non. J'ai la haine, j'ai pas envie qu'on m'aime. J'veux un M. Malgré tous ces couteaux dans mon dos, j'prends un sac tous les jours, c'est la même. J'ai la haine, j'ai pas envie qu'on m'aime. J'veux une nouvelle chaîne, j'veux un M. Malgré tous ces couteaux dans mon dos, j'prends un sac tous les jours, c'est la même.